Et maintenant ?
Et oui, et maintenant ?
Maintenant, écoutez lire. Bonjour, Bernard Quirini, auteur belge de romans et de nouvelles, manie avec virtuosité l'humour. Dans « Vie conjugale », recueil d'une vingtaine de textes grinçants, burlesques ou fantastiques, les vies se conjuguent et les amours se déclinent. Voici, de Bernard Quirini, deux nouvelles extraites du recueil « Vie conjugale ».« Vie conjugale » et « J ». Vie conjugale. Je prenais tous les automnes une semaine de repos dans un centre balnéaire en Bretagne, un établissement chic, bien tenu, dont tous les employés connaissaient mon nom. J'ignorais si leurs prévenances et leurs petites attentions à mon égard étaient naturelles, et s'ils se souvenaient de moi d'une année sur l'autre, ou si tout était machiné par la directrice, qui, avant mon arrivée, leur faisait passer une fiche sur mon compte. Certains membres du personnel m'étaient devenus proches, comme cette masseuse qui, pendant nos séances, me racontait sa vie, détails intimes inclus. C'était un feuilleton quotidien de 30 minutes. J'étais pressée chaque matin d'y aller, moins pour le plaisir d'être massée que pour celui d'écouter sa confession. Les clients se répartissaient en plusieurs catégories. Premièrement, les retraités. Bronzés, blasés, ils déambulaient en peignoir blanc au bord de la piscine et lisaient des journaux économiques et des magazines sur l'art de vivre. Deuxièmement, les femmes seules. Beaucoup venaient dans l'espoir d'une liaison sans lendemain. Il m'arrivait de leur offrir ce qu'elles cherchaient. Troisièmement, les jeunes couples fortunés, venus se reposer de leur vie harassante. Quatrièmement, les émirs arabes avec leur suite, plus nombreux chaque année. Quant à moi, j'étais hors catégorie, mais je ne suis pas objectif. Les autres faisaient-ils la même chose que moi, élaborant des grilles pour classer les gens? Cette fois-là, j'avais décidé de passer en Bretagne 3 semaines au lieu d'une, 2 à l'Institut pour ma cure, 1 de promenade en voiture sur la côte. Je commençais par la promenade. Elle fut parfaite. Sauf que ma voiture, le dernier jour, tomba en panne à Roscoff. Mais peu importe, j'avais vu de beaux paysages, dîné dans de bons restaurants et connu une aventure dans un hôtel. Après quoi j'avais pris mes quartiers à l'Institut où ma chambre était 2 fois plus grande que les dernières fois, sans supplément. Je repris ma vie agréable et monotone de curiste, consacrant mes matinées aux baignades et aux soins, mes après-midi aux balades sur la plage ou dans les alentours. L'Institut mettait des bicyclettes à disposition et mes soirées à la lecture. La bibliothèque était merveilleusement fournie. Dès les premiers jours, je ressentis les effets bénéfiques de la cure. Mon corps me paraissait plus léger, mes articulations moins douloureuses et je dormais 9 heures par nuit au lieu de 5 habituellement. Il y avait un client que je n'avais jamais vu les années précédentes, un solitaire, comme moi. Il avait la 50aine, il était chauve et portait des lunettes à grosses montures passées de mode. Nous sympathisâmes, il s'appelait Maurice de Saint-Guérin, nom décoratif qui m'en imposa. Il me proposa de dîner ensemble au restaurant du centre. Comme il m'avait vu lire l'histoire amoureuse des Gaules de Bussy Rabutin, il me parla du château de l'auteur en Bourgogne qu'il avait visité des batailles qu'il avait conduites, de ses déconvenues comme courtisan et de ses femmes. C'était impressionnant. Saint-Guérin savait tout. Vous êtes historien ? Non, mais je m'intéresse aux grands personnages. Il évoquait tous les sujets avec la même faconde. En fait, il monopolisa la parole tout au long du repas. Sa voix, chaude et grave, était très agréable, sensuelle même. Il plaisait sans doute aux femmes. Précisément, il se mit à me raconter ses amours. « Je vais vous montrer quelque chose. » Il sortit un carnet de cuir muni de pochettes pour glisser des photos. Je les fis défiler. Toutes montraient une jeune femme brune, environ 25 ans, très belle, avec un grain de beauté sous le nez. « Votre fille ?»« Ma femme. » »« Ah, pardon. Nous ne sommes plus ensemble. » Il était bien plus âgé qu'elle. On nous apporta les tisanes. Jamais de café le soir au centre. Je lui rendis son carnet, nous bûmes nos tasses en silence, puis il se leva. « Je vous remercie d'avoir dîné avec moi. » Je hochai la tête, il s'en fut en glissant sur le carrelage, comme s'il avait du feutre sous les semelles. Le lendemain, il demeura invisible. J'aurais bien aimé le revoir, et qu'il me raconte la photo de sa femme dont le visage m'avait frappé. Quel âge avait-elle aujourd'hui ? Quel était son prénom ? Pourquoi était-il séparé ? Ses penchants indiscrets m'étaient inhabituels, mais c'était sa faute. Il m'avait dévoilé sa vie privée sans que je demande rien. J'étais fondée à en réclamer davantage. Le surlendemain, toujours pas de Saint-Guérin à l'horizon. Le centre n'était pourtant pas grand, mais je craignais qu'il ne se soit joué de moi. Il s'était inventé un faux nom pour m'amuser, une fausse existence, et j'avais tout gobé. Maintenant, il était parti. Quant à la femme sur les photos, ce n'était pas la sienne. Je fus tentée de demander à la réception pour en avoir le cœur net, mais je renonçais. Je me sentais idiot. J'avais vaguement imaginé au début qu'il était homosexuel et qu'il avait voulu me séduire, mais c'était moi, maintenant, qu'il avait dans la tête. Quelques jours plus tard, revenant de ma promenade matinale, je tombai non loin de l'hôtel sur un objet jeté par terre que je reconnus, le carnet de Saint-Guérin. Je le ramassai, il était sec, alors qu'il avait plu. Saint-Guérin était passé par là peu de temps auparavant. Je l'ouvris, regardai les photos de son épouse, sa coiffure était différente à chaque fois. Certains tirages étaient jaunis, comme s'ils dataient d'une autre époque. Je glissai le carnet dans ma poche et rentrai. Le même jour, je me trouvais devant l'étagère à journaux installée près de la réception quand deux femmes et un homme se présentèrent au comptoir pour s'enregistrer. L'une des deux femmes ressemblait furieusement à Madame de Saint-Guérin. Je tressaillis. C'était bien elle. Même visage, même nez, même grain de beauté. Aussi jolie que sur les photos. Elle prit sa clé et marchant vers l'ascenseur, elle me jeta un regard bref qui me troubla. Mais alors, songeai-je, si elle était là, son mari aussi. Il m'avait dit qu'ils étaient séparés. Passaient-ils donc leurs vacances ensemble? Et ce couple avec elle, des amis, des parents? Je n'y comprenais rien. Quoi qu'il en soit, ne devais-je pas lui rendre le carnet de son mari? Il me faudrait cependant expliquer la façon bizarre dont il était arrivé en ma possession. Je préférais le conserver. Ma surprise fut complète le soir, quand j'aperçus Saint-Guérin au restaurant, sa femme dînant non loin avec l'autre couple. À quoi jouait-il ? J'avais le carnet dans ma poche. J'aurais bien fait un scandale. Brandis l'objet, foncé vers lui. « Cher ami, tenez, les photos de votre épouse. » Je me serais alors tourné vers elle. « Mais c'est vous ! Quelle coïncidence !» Etc, etc. Saint-Guérin me repéra, son visage se barra d'un sourire ambigu. On aurait su dire s'il était contrarié, surpris ou amusé. Je le rejoignis, passant tout près de sa femme. « Je vous croyais parti, » dis-je sèchement. « Asseyez-vous. » Je m'installai. « Vous ne dînez pas ensemble ?» demandai-je en la désignant. Il ne répondit rien. « Votre attitude a de quoi surprendre. » Le serveur surgit avec les cartes. Je commandais une volaille. Le même plat, me sembla-t-il, que Madame de Saint-Guérin. Saint-Guérin du poisson. Puis je posai le carnet sur la table. « Ceci vous appartient. » « Oh !» Il avait l'air étonné. C'était de la très belle comédie. « Où l'avez-vous trouvé ?»«
Sur la route, tout près. »
Il tendit la main, mais je fus plus rapide. « Les photos sont réussies, » repris-je. « J'ai été tenté de les lui remettre. »
« À qui ?»«
À votre femme. » Une forme de mélancolie s'afficha sur sa figure. « Vous ne saisissez pas ?»«
Je vais vous raconter. » »«
Mais d'abord, attendons qu'elle soit partie. » »«
Vous ne voulez pas que votre épouse vous rejoigne ?»«
Ce n'est pas mon épouse. » »«
Pas encore. » »«
Pas encore. » »«
Vous vous fichez de moi. » »«
Attendons, » murmura-t-il, « je vous en prie. » J'avais 20 ans, j'étais étudiant. Élise m'a plu tout de suite. Je lui ai fait la cour. On ne perdait pas de temps à l'époque. Je l'ai présentée à mes parents, elle m'a présentée aux siens. Nous nous sommes mariés. Nous avons emménagé à Paris. Tout allait à merveille, sauf que nous ne parvenons pas à avoir d'enfants. Je me demandais où il voulait en venir. Au bout de quelques années, j'ai commencé de la trouver moins belle. Elle vieillissait, nous étions encore jeunes pourtant, mais elle avait perdu sa fraîcheur, son innocence, son charme. Peut-être est-ce mon regard sur elle qui avait changé ? Toujours est-il qu'elle ne ressemblait plus à la femme-enfant que j'avais aimée. Il me demanda le carnet, l'ouvrit à la première page et me montra le cliché. C'est elle.
Je sais.
Non, je veux dire, c'est ma première femme. Cette photo a plus de 30 ans.
Mais...
Il sourit. Je vous explique. Il but une gorgée de vin. Notre mariage s'est étiolé, nous nous disputions sans cesse et finalement nous sommes convenus de divorcer. Elle a claqué la porte, nous ne nous sommes revus qu'une fois au tribunal.
Oh, désolé, mais je...
Laissez-moi terminer. Je me suis réfugié dans le travail, mon entreprise marchait très fort et je voyageais beaucoup. Un jour, un homme d'affaires belge m'a invité à dîner chez lui, à Bruxelles, avec son épouse et sa fille. Il me montra la deuxième photo, la même femme, le même grain de beauté. Sa fille, Alice. Je pris le carnet, comparai cette photo à la précédente, c'était la même personne. Vous commencez à comprendre ?
Non.
Saint-Guérin émit un gémissement. Elle lui ressemblait comme 2 gouttes d'eau. Alice était le parfait sosie d'Élise, au même âge. C'était extraordinaire. Je me serais cru rajeuni. Et je suis tombé amoureux sur le champ. Ou retombé, si vous préférez. Tout au long du dîner, je n'ai eu Dieu que pour elle. Elle a parlé. Sa voix, son timbre m'étaient familiers. Son rire aussi. Mon hôte a vu mon intérêt pour sa fille. Et cela ne l'a pas dérangé. Il soupira. Je l'ai revue. Je lui ai fait la cour. Et je me suis déclaré à son père. Il m'a accordé sa main, malgré la différence d'âge. Et Élise ?
J'ignore ce qu'elle est devenue.
Je crois n'avoir jamais parlé d'elle à Alice.
Votre deuxième épouse.
C'est ça. Alice et moi avons été heureux. Nous n'avons pas eu d'enfants. Puis, au bout de quelques années, nous avons divorcé.
Comme la première fois ?
Oui, elle m'a quitté. Je n'ai pas compris pourquoi, d'ailleurs. Laissez-moi deviner la suite, dis-je. Peu après, vous avez rencontré un nouveau sosie d'Élise. Il sourit. Je suis restée célibataire pendant 3 ans, puis j'ai rencontré Mathilde.
Troisième photo.
Elle avait 22 ans, je l'ai épousée. 3 ans plus tard, nous divorcions. Nous étions les derniers dans le restaurant. Saint-Guérin faisait défiler les photos. Après Élise, Alice et Mathilde, il y a eu Marguerite, Natacha et Sidonie. Elles se ressemblaient toutes. Hélène, Joanne et finalement Maria.
Votre dernière épouse ?
En attendant la prochaine. Nous poursuivîmes la conversation au salon. Leur révélez-vous que vous avez été mariée à de nombreuses reprises ?
Ah non, mon passé ne les intéresse pas. Pour elles, nous partons de zéro.
Elles se doutent que j'ai connu d'autres femmes, mais elles font comme si de rien n'était. Je commençais de me mieux représenter sa vie fantastique. Cela durera-t-il toujours ? À chaque divorce, je crois que c'est le dernier. Et puis, je la rencontre à nouveau.
Je réfléchis longuement à cette histoire, à ces multiples versions de la même femme, rajeunie, réincarnée, et à la possibilité aussi que Saint-Guérin se fût moqué de moi. Dire que sa future épouse était ici, dans cet établissement. Ignorant qu'elle lui était promise, elle ne l'avait peut-être pas remarqué, mais lui l'avait repéré tout de suite, comprenant qu'il avait droit à un nouveau tour de manège. Lui était-il possible de ne pas utiliser son ticket ? Je veux dire, de passer son tour, de refuser de nouvelles noces ? Ou bien le sortilège était-il trop fort ? Si c'était chaque fois la même femme, dotée du même caractère, il devait savoir tout de suite quoi dire et faire pour lui plaire, à moins qu'il y eût des aspects de nouveauté chez chacune, des traits de caractères inédits. J'aurais voulu qu'il m'en dise davantage. Hélas, il n'apparut plus les jours suivants, ni au restaurant, ni aux soins, ni à la piscine. Je demandais s'il avait laissé un message pour moi, mais non. Je ne revis pas non plus sa promise. Mon séjour toucha à sa fin, ma voiture, réparée, m'attendait devant l'Institut. À la réception, ma note. Saint-Guérin, serait-il là l'an prochain avec sa nouvelle femme, ou déjà avec la suivante? Comme je signais les papiers, la porte de l'ascenseur s'ouvrit. Ils en sortirent, serviette sur l'épaule, en route pour la piscine. Il la dévorait tellement des yeux qu'il ne m'aperçut pas. Il avait recommencé sa cour. J. J'exerçais le métier de nourrice, ce qui est peu banal pour un homme et même passablement suspect. Les parents me confiaient cependant leur progéniture en toute confiance. Ma réputation était excellente. Du reste, ils n'avaient pas le choix. Là où j'habitais, les gardes d'enfants, rares et débordés, refusaient du monde. On était bien content de me trouver. J'accueillais mes petits pensionnaires dans mon humble maison de la rue P, et au beau jour, je les conduisais dans le parc public tout proche. J'avais aussi, derrière chez moi, une cour abritée pour qu'ils prennent l'air. Je les acceptais à tout âge, mais ma préférence allait aux grands de 2 ans et plus. J'évitais les nourrissons qui demandaient trop de soins. J'avais en moyenne 3 enfants à la fois. Mais il m'arrivait d'en avoir davantage, jusqu'à 5. Je gagnais très bien ma vie. C'est pourquoi j'ai conservé si longtemps cet emploi choisi par hasard, dont j'avais cru au début que ce ne serait que pour quelques mois. Un jour, je fus contactée par la maman d'une fille de 5 ans, qu'elle élevait seule, et dont elle ne pouvait pas s'occuper à cause de son travail. Pouvais-je la prendre le soir, après l'école, ainsi que le mercredi ? J'avais déjà 3 enfants, mais la pauvre semblait désemparée. Un gosse de plus, surtout à cet âge, ne me poserait pas de problème. Je proposais de nous rencontrer le lendemain. Rendez-vous fut pris pour 17 heures. Elle sonna à l'heure pile. J'ouvris et tombai sur une femme très belle, très blonde et très pâle, qui devait avoir 30 ans. Elle était seule. La petite passait l'après-midi chez sa grand-mère. Elle est une grand-mère ? Oui, mais vieille et malade. Et je ne peux pas compter sur elle. Elle s'appelait Juliette, sa fille Jeanne. On aimait le J dans la famille. La grand-mère, Joanne, Julienne ? Nous nous arrangeâmes. Jeanne arriverait vers 16h30, accompagnée par la mère d'une élève de sa classe qui habitait dans le quartier. Juliette viendrait la chercher après son travail, au sujet duquel elle ne révéla rien. Je posais des questions, mais elle demeurait évasive. Seulement, précisa-t-elle, ses horaires changeaient sans cesse. Elle ne pourrait parfois récupérer Jeanne qu'au début de la soirée. Elle voulut même savoir si Jeanne, exceptionnellement, pourrait passer la nuit ici. J'avais à l'étage une chambre pleine de petits lits. Je n'y voyais aucun inconvénient. J'indiquai mon tarif, qu'elle accepta sans discuter. Tout au long de notre entretien, je fus troublé par sa beauté, mieux, par son charme. Jeanne arriva le lendemain à l'heure convenue. Elle ressemblait à sa mère de façon stupéfiante. C'était la même, en modèle réduit. Traits, teint, blondeur, tout concordait. Son visage était juste un peu plus rond. On aurait dit une esquisse, un croquis voué à s'affiner et se perfectionner au fil des ans pour aboutir à ce chef-d'œuvre qu'était Juliette. « Me voici, » murmura-t-elle. « Entre !» Elle franchit le seuil, posa son cartable contre le mur, ôta sa veste et la plia sur son bras en attendant de savoir où la poser. Je lui présentai mes pensionnaires, Lucas, 15 mois, Mathias, 2 ans, Solène, 3 ans et demi, et Jeanne parut réjouie et me dit qu'elle s'occuperait bien d'eux avant de se corriger, qu'elle m'aiderait à bien m'occuper d'eux. J'appris à la connaître. Elle aimait lire, dessiner, construire des châteaux avec des cubes en bois, donner à dîner à ses poupées. Elle mettait à toute chose l'entrain, l'enthousiasme, la passion des enfants. Sitôt qu'elle commençait de jouer, le monde autour d'elle n'existait plus. Les parents des trois petits les récupérèrent à 18h30. Nous demeurâmes en tête à tête. Juliette devait passer vers 20h. Un peu fatiguée, Jeanne demanda la permission de s'allonger. Je lui indiquai le divan. Au bout de 5 minutes, elle fut endormie et je disposai sur elle une couverture. Elle se réveilla une demi-heure plus tard, ragaillardie, prête à jouer. Puis, à 20h, tel un robot, elle s'immobilisa. « Maman est arrivée, » dit-elle. « Je n'ai pas entendu sonner. Elle m'attend dans la voiture. Tu es sûre ?» Jeanne, sans répondre, courut vers l'entrée, décrocha sa veste du porte-manteau et ramassa son cartable. J'ouvris la porte. Une voiture blanche stationnait de l'autre côté de la rue. « C'est elle ! À demain !» Elle regarda des deux côtés, puis traversa avant de grimper à l'arrière. Je refermai, un peu déçue que Juliette ne fût pas descendue pour me saluer. Sans doute était-elle rompue et pressée de rentrer chez elle. Jeanne se révélait une petite fille merveilleuse, drôle et gaie. Elle était en même temps mystérieuse et un peu secrète. Souvent, elle rêvassait dans le canapé, jambes pendantes, regard perdu. Elle chantonnait, se racontait des histoires. J'aurais voulu savoir peindre pour faire son portrait. Jamais une enfant ne m'avait intéressée comme elle. Quelquefois, Juliette me rendait visite pour s'assurer que tout se passait bien. J'étais toujours frappée par sa beauté. Comme je voyais sa fille tous les jours, c'était elle à présent qui me rappelait Jeanne, et non plus l'inverse. Je reconnaissais chez la mère les attitudes de la fille, une façon de poser le coude sur la table, de hausser les épaules. Jeanne, au début, m'avait paru très adulte. Juliette, à présent, me semblait fillette. Un lapsus m'échappa d'ailleurs une fois, au moment de la raccompagner. Je l'appelais Jeanne, elle sourit. Soyons clairs, j'étais amoureux. J'avais appris lors de nos conversations qu'elle vivait seule. En vérité, elle m'avait simplement dit que Jeanne n'avait pas de père, ce que j'avais interprété comme un aveu de célibat. J'attendis toutefois avant de lui faire la cour, pour me fortifier dans ma décision. J'ai toujours été lent dans ce domaine, au risque de manquer le coche. À partir de là, la présence de Jeanne prit une dimension un peu étrange. D'un côté, j'étais ravie de la voir près de moi, parce qu'elle m'évoquait sa mère. C'est connu, un homme épris donne toujours de la valeur à ce qui le rapproche de l'objet de son désir. Je m'occupais donc de Jeanne avec une attention redoublée, pour qu'elle parle de moi à Juliette. Je l'encourageais à lui raconter nos jeux, nos bavardages, nos fous rires. D'un autre côté, leur ressemblance me perturbait. Quand Jeanne arrivait, mon cœur se mettait à battre plus fort. Effrayée, je m'efforçais par réaction de la tenir à distance et même de me montrer froid. S'en rendit-elle compte ? Je ne crois pas. Moi, je sentais bien que je déraillais. Il fallait dissiper cette confusion, me déclarer à Juliette et laisser Jeanne hors de tout cela. Je remis à Jeanne un billet pour sa mère, une invitation à dîner. Jeanne glissa l'enveloppe dans sa poche. Or, quelques minutes plus tard, je découvris le pli décacheté, en évidence, sur la table. Elle l'avait lu. Je la grondais. Elle baissa la tête. En même temps, c'était ma faute. Qu'avais-je besoin de me servir d'elle comme boîte aux lettres ? Ce mot est pour ta mère, pas pour toi. Oui. Tu ne dois pas lire les lettres destinées à autrui. Non. Elle demeura silencieuse, regardant ses souliers. D'un ton plus doux, je lui fis jurer de ne plus recommencer. Le lendemain, elle me tendit la réponse de sa mère. Avec plaisir. J. Nous dînâmes, mais je lui exposai plus ou moins mes sentiments. Elle ne me promit rien, mais en partant, elle m'embrassa. C'était beaucoup venant d'elle, si distante, si farouche. Je me repris à espérer davantage. Or, dès le lendemain, Jeanne commença à adopter des comportements saugrenus. Elle prenait des pauses langoureuses et multipliait les sous-entendus ou les mots à double sens. Sa mère lui avait-elle parlé de nous ? Mais elle pouvait avoir compris toute seule. Jeanne était extra lucide, surtout quand il s'agissait de Juliette. Elle savait tout sur sa mère et inversement. Elles étaient comme transparentes l'une à l'autre. Une idée me vint alors à l'esprit, absurde et pourtant lumineuse. Juliette et Jeanne étaient la même femme. Voilà pourquoi je ne les avais jamais vues ensemble. Ce n'était tout simplement pas possible. Ce n'était pas sa fille que Juliette me faisait garder, c'était elle-même. Au moment où, rajeunie, rapetissée, elle ne pouvait rester seule. Puis elle grandissait à nouveau et récupérait son enveloppe adulte. Un peu de la femme demeurait dans la fillette après chaque métamorphose et de la fillette dans la femme. C'est pourquoi Jeanne me paraissait parfois si mûre et Juliette si gamine. Déraisonnais-je ? Évidemment. Je gamberge toujours devant une situation difficile. C'est ma façon de l'affronter. Un soir, alors que Jeanne était là, une grande fatigue s'empara de moi. Je craignis d'avoir attrapé la grippe. Jeanne dessinait en silence au salon. Je lui dis que je me sentais faible, que j'allais me reposer sur le divan. Elle hocha la tête et continua ses travaux. Je m'allongeai, fermai les yeux. Sans l'avoir voulu, je m'endormis. Et je rêvais. Un rêve érotique. Une main blanche aux doigts fins me conduisait au plaisir. Jamais je n'avais fait un tel rêve auparavant. Si étrange, si précis. Je me réveillais. Jeanne était toujours à sa table. Une terrible inquiétude monta en moi. Avais-je poussé par hasard des soupirs équivoques ? Je me redressais. Le salon était plongé dans la pénombre. Jeanne m'observa et me demanda si j'allais bien. Je courus me changer, priant pour qu'elle ne raconte pas à sa mère qu'elle m'avait vu m'assoupir, puis me tordre bizarrement dans mon sommeil. Le lendemain, Jeanne ne vint pas comme d'habitude. Je m'inquiétais. Lui était-il arrivé un malheur ? Puis je me souviens que cette absence était prévue, que Juliette m'en avait averti. J'avais besoin de repos. Elle me rendait fou. Le soir, on sonna. Juliette, plus belle, plus désirable que jamais. Je m'écartai pour la laisser entrer. Elle retira son manteau qu'elle fit tomber. Je voulus le ramasser. Elle posa sa main sur mon bras et murmura « Laisse !» comme Jeanne, qui la veille avait laissé glisser le sien et m'avait dit, tandis que je me baissais, « Laisse !» Nous nous étreignîmes. Humant ses cheveux, je reconnus l'odeur de Jeanne. Frisson. La dissocierai-je enfin de sa fille ? Je l'embrassai et la conduisis dans ma chambre où nous basculâmes sur le lit. Nous fîmes l'amour deux fois. Je me réveillai vers 6 heures. Il faisait encore nuit. Elle dormait, respirant régulièrement. Je crus reconnaître la respiration de Jeanne qui m'était familière. Jeanne ? Juliette ? Laquelle était à mes côtés ? Pétrifiée, j'attendis l'aube.
Nous avons entendu de Bernard Quirini, extrait du recueil « Vie conjugale »,« Vie conjugale » et « J ».
C'était « Écoutez lire ». Une émission de Radio Alto.